je lance AZERTY.
Internet ? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire.
C'est comme un énorme Minitel.
Internet !
Internet, c'est le nettoyage.
Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet.
Du 19 au 21 mai 2023 avait lieu à Rennes la 18e édition du Stunfest, le festival du jeu vidéo et de la culture vidéoludique sous toutes ses formes. Avec Guglielmo, nous avons eu l'occasion de nous balader dans les couloirs du Liberté, là où avait lieu l'événement, et nous avons tendu notre micro aux différents acteurs de ce festival atypique. Vous le verrez, entre développeurs d'expériences numériques un peu bizarres, joueurs passionnés et champions de bowling sur Wii Sport, le Stunfest n'a pas manqué d'intervenants, tous plus intéressants les uns que les autres. Aujourd'hui, dans AZERTY, on vous propose donc une émission un peu spéciale et on vous emmène découvrir la culture vidéoludique au cœur du Stunfest. Bon, je dois vous faire un aveu. Moi, je suis déjà venu au Stunfest.
Active Design, c'est des expériences un petit peu narratives.
Plusieurs fois même. Et d'ailleurs, à chaque fois, c'était pour la radio.
C'est ça, la Ninza, le jeu dont je te parlais aussi.
Et comme Gu, la première fois que je suis arrivé au stand des jeux indépendants, franchement, ça m'a fait un truc.
La quantité des jeux vidéo. Il me faudrait 3 jours rien que pour les stands des jeux indépendants. Mais je dois admettre que j'ai une faiblesse pour le vieux jeu d'arcade. Et je suis donc naturellement intrigué de voir au Stunfest les 6e épisode d'un très vieux jeu japonais, Magical Drop. Alors, l'idée de base vous est certainement familière. Vous jouez contre un adversaire, chacun dans sa moitié de l'écran, et il y a des boules colorées qui descendent de haut et qui ne doivent pas toucher les bas. Mais vous pouvez réarranger les boules, et si vous arrivez à en mettre 3 de la même couleur de réarranger, elles sont détruites. Quelque peu étonné de voir une série aussi célèbre au Stunfest, je vais discuter avec Mohamed Adil de TA Publishing, les studios qui, avec Forever Entertainment, a développé le jeu. Nous parlons de la genèse du jeu, ce qui signifie de relancer un vieux jeu, et de la passion qu'on a en ce moment pour ces genres de remakes.
Alors Magical Drop, c'est une licence qui est assez connue, qui est sortie dans les années 90. Donc nous, on a été en charge du 6e volet. Donc c'est le 6e volet qui permet en fait d'avoir vraiment ce renouveau un peu plus frais, un peu plus contemporain. Donc on a fait une refonte graphique, on a aussi adopté un gameplay un peu plus ouvert aux casual gamers, donc qui permet en fait au public qui est pas très familier avec la licence de pouvoir adopter un peu le style Magical Drop, tout en gardant l'identité et le core gameplay du volet préféré des joueurs, ceux qui ont joué à Magical Drop, au Magical Drop précédent, qui est le 3.
Qu'est-ce que ça va dire pour vous, au niveau des processus vraiment créatifs et de développement, de travailler sur quelque chose qui a une histoire déjà là derrière?
En fait, nous, de notre côté, quand on a voulu prendre Magical Drop et essayer d'en faire un 6e volet, on a vraiment regardé l'ensemble, en fait. On a regardé, en fait, comme on dit, the big picture, on a vraiment regardé l'ensemble des volets qui étaient sortis et on s'est demandé qu'est-ce que ça allait être comme 6e volet. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Est-ce qu'on voulait changer le core gameplay? Est-ce qu'on voulait changer l'aspect graphique? Et au final, on arrive à une conclusion, on va dire, assez claire. C'est que Magical Drop, en soi, est une licence tellement appréciée et tellement suivie par sa communauté de base qu'on ne va pas tout changer. Ça ne servirait strictement à rien. Plutôt, on va ramener et faire en sorte que Magical Drop 6 garde l'identité clé de Magical Drop, de la licence en elle-même, tout en l'améliorant et en l'ouvrant un peu plus au public, comme j'ai expliqué précédemment.
Et moi, je trouve assez particulier à chaque fois la passion, disons, pour le rétro gaming ou pour la redécouverte de vieux jeux vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a plus d'imaginaire à sortir, qu'on répète un peu les mêmes choses. Je pense notamment, là, ça vous concerne pas votre jeu, du coup là, j'élargis un peu. Ouais. Je pense notamment au retour de Cyberpunk, des choses comme ça. Et vous, du jeu un peu arcade, qu'est-ce que ça dit un peu cette passion rétro gaming?
Alors moi, je pense, et c'est mon avis personnel, je pense qu'il y a une soif aujourd'hui de retrouver ces licences clés qui nous ont marqués en fait dans les années précédentes, de les retrouver sur nos consoles contemporaines aujourd'hui. Et avoir une vision, on va dire, nouvelle et un peu plus rafraîchie aujourd'hui de ces mêmes licences-là. Je pense que c'est le principal objectif. Et faire en sorte également, et je pense que ça, c'est le pilier, c'est la fondation de tout, les faire découvrir aux nouvelles générations aujourd'hui, qu'elles découvrent en fait enfin l'histoire même de ces licences-là qui ont marqué notre histoire, notre enfance, etc., dans une vision un peu plus contemporaine et un peu plus rafraîchie pour leur permettre de ne pas être trop réfractaires. Parce que c'est vrai que quand on leur montre les versions originales, la nouvelle génération a pas trop envie d'y jouer, a pas trop envie de prendre la manette. Mais c'est vrai que quand on les met face à un look un peu plus rafraîchi, un peu plus contemporain, ils sont plus enclins à essayer, ils sont plus enclins à voir. et finalement ils sont en train de vraiment de, d'apprécier et vraiment ils se disent bah franchement les jeux vidéo avant bah c'était pas si mal quand même. Et c'est un réel plaisir aujourd'hui de voir des personnes qui sont pas du tout familières par exemple avec l'IP Magical Drop, de les voir découvrir le 6ème et se dire ah mais il y a vraiment plusieurs volets de ce type de jeu là qui sont sortis précédemment mais j'étais pas au courant et pourtant j'ai tellement de fun dessus. J'apprécie énormément, c'est limite addictif quoi. Donc c'est nous ça nous ravit quoi. C'est que l'objectif qu'on avait de base, bah il est atteint et c'est quelque chose qu'on va continuer à faire.
À plus tard dans mon tour de jeux indépendants, je tombe sur Goblins Publishing, un développeur de jeux de stratégie qui présente deux jeux, Sandwalker et Shogun Showdown. Je m'arrête sur ces derniers. D'une part parce que j'avais déjà joué sur itch.io, un site où tout le monde peut télécharger des jeux vidéo ou des expériences numériques. Et d'autre part, parce que l'histoire de son développement est un peu particulière. En effet, vu le niveau des expériences numériques qu'ils nous ont proposées, on pourrait imaginer que les jeux vidéo sont que le fruit d'un travail d'équipe professionnelle. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas, et la passion, des fois, joue un rôle fondamental. Mais ils l'expliquent mieux que moi.
Shogun Showdown, c'est un jeu d'action, un jeu de stratégie au tour par tour, assez rapide, qui est un peu comme Crypt of the Necrodancer, mais sans la notion de rythme. Ça permet en fait de faire des combinaisons un peu d'arts martiaux, toute une loupe qui se rapproche du roguelike deck builder.
Et du coup, ces jeux, c'est quoi la genèse de ces jeux? C'est-à-dire d'où ça sort? C'est qui l'a développé? C'est une boîte? C'est un solo?
Donc c'est un développeur seul qui est italien, qui vit actuellement aux Pays-Bas. Et donc on l'a trouvé sur Itch effectivement aussi. Et du coup on l'a aidé à avoir un peu plus de budget pour se lancer à plein temps dans le jeu. On l'a lui donné un peu de budget aussi pour avoir une autre version du pixel art parce qu'à l'époque il faisait absolument tout seul. Et voilà, et ça a permis de se développer et d'améliorer un peu le jeu. Il avait un métier à la base, il était développeur mais pas de jeux vidéo. Et du coup il faisait ça sur son le soir et le week-end. Et du coup on lui a permis de le financer pour qu'il puisse se lancer un peu plus dedans.
Comment vous vivez vous peut-être les côtés d'être de développeur indépendant?
À titre perso, je définis plutôt indépendant quand il n'y a pas d'investisseur externe. Donc c'est vrai que nous on a la totalité des parts de la boîte, donc on n'a pas d'influence extérieure au niveau financier. Et aussi on ne travaille pas par exemple avec la censure chinoise. Donc on est vraiment sur des jeux. Alors on peut pas dire qu'il n'y a pas de censure du tout, parce que n'importe quel jeu qui est sur Steam subit par exemple la censure américaine. Donc notamment pas le droit de brûler un drapeau américain, il y a des règles de nudité, etc. Donc il y a toujours de la censure. Mais voilà, le but c'est d'être au maximum indépendant en termes d'édition créative.
Bon, au moins sur ces jeux ça va. J'imagine pas trop brûler un drapeau américain d'un Shogun Showdown.
Non, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais quand on est sur Steam, quand on est sur sur iOS, quand on est sur Google Play, en fait, subissez quand même la censure américaine.
Casimir, eux, faudra que j'arrive leur parler parce que le jeu, il est né de la Stun Jam 2019.
Ah, trop bien.
Et en fait, le thème de la Stun Jam 2019, c'était la mire. Et donc, du coup, tu pouvais exploiter la mire comme tu voulais. Et eux, ils ont pris le jeu de mots Casimir.
On a l'occasion de voir dans le jeu. Et donc, du coup, finalement, en fait,
chaque année, il y a un thème.
Chaque année, en collaboration avec le Stunfest, l'association de jeux vidéo indie collective organise une Game Jam. Alors une Game Jam, c'est un événement qui dure généralement un week-end, durant lequel les participants forment des petits groupes et ont 48 heures pour créer un jeu vidéo. La Stun Jam a lieu une semaine avant le festival, et au Stunfest, c'est le stand d'indie collective qui présente ces jeux.
Alors cette année, c'était donc le thème c'était la Discord. Et donc la Discord, et on avait une quinzaine de participants. Il y a eu 6 projets réalisés, 6 projets. On fait ça à l'aide du lab de Pasteur. Et donc les gens découvrent le thème le vendredi soir, ils discutent entre eux, font les équipes justement sur place en fonction des affinités, des compétences de chacun. Et puis les jeux sont lancés ensuite en général le samedi et le dimanche et ils essayent de réaliser le jeu le plus rapidement possible.
Quel profil on retrouve parmi les gens qui participent à la jam? Est-ce que c'est que des spécialistes du jeu vidéo? Est-ce que c'est des gens qui ont un pied dedans? Est-ce qu'il y a des novices?
Il y a un peu de tout justement. Il y en a qui font des game jams régulièrement, comme Lilian ici qui est musicien, donc qui revient souvent et qui... Comme on est plus limité en général sur les musiciens, il va travailler sur plusieurs projets pendant le week-end, va essayer de donner des thèmes pour chacun. Autrement, il y a beaucoup de développeurs, comme c'est vrai, c'est comme une communauté qui est très présentée, des graphistes aussi, qu'on retrouve selon les projets. Et il y a toujours des nouvelles têtes. C'est ça qui est bien, c'est que là encore, on avait des personnes qui n'avaient jamais fait de jam, donc qui découvraient. sont accompagnés d'amis qui en ont fait avant eux, donc avec qui pourront les guider un petit peu dans ce qu'il faut faire. Les profils sont quand même des gens qui connaissent de plus en plus déjà les outils qui sont à leur disposition, que ce soit les moteurs de jeu, les outils de graphisme, les logiciels de son spécialisés pour le jeu vidéo. Les gens ont ces connaissances-là déjà, alors qu'avant c'était un petit peu le balbutiement. Et donc les gens apprenaient au fur et à mesure, ah oui, il y a ça aussi que vous pouvez utiliser. Enfin, il y avait plus de besoin de conseiller sur les outils. Maintenant, les gens arrivent déjà avec ces connaissances.
Alors moi, je suis mauvais.
Oh, c'est pas grave.
Ça va très bien.
Le jeu, il paraît méchant, mais il est assez généreux.
À quelques mètres du stand d'Indie Collective se trouve Super Reactor, un jeu issu d'une jam, justement. Au micro d'Azerty, Sushi, l'un des développeurs du jeu, me raconte comment vit un jeu après ce genre d'événement.
Ce jeu, au départ, il avait été réalisé à l'Octojam, qui était une game jam d'Indie Collective en octobre, qui se passe à peu près toutes les années. À l'issue de cette jam, on avait quelque chose déjà qui fonctionnait en fait, qui était fun et tout. On s'est dit, pourquoi ne pas essayer d'aller plus loin, de continuer ce jeu. Ce serait notre première vraie expérience pour essayer de sortir en jeu vidéo. Et voilà, on en est là avec une première démo pour le Stunfest, où apparemment les gens apprécient beaucoup le jeu, du coup ça nous fait plaisir.
Ça, c'est tous les boutons que tu as. Et alors, avec tout ça, ce que tu dois faire, tu dois rattraper les boulettes vertes et avec le laser. Vraiment, en te mettant dans le bon sens et tout, parce que si ça tape dans les extrémités, ça compte pas.
Beaucoup de personnes ont la mauvaise habitude de se dire « Non, mais je sais pas coder, je peux pas aller en jam, à quoi je vais servir à rien, etc. » Et en fait, non. Le simple fait de pouvoir venir donner des idées, juste jouer au jeu, et pouvoir faire des retours, c'est une aide incommensurable en jam. Et ça permet justement de voir comment ça se passe, en proposant des choses, en notant des choses, etc. Pour donner une idée, pas plus tard qu'hier, du coup, avant l'ouverture du Stunfest, il y a juste un régisseur du Stunfest qui est venu nous faire tester le jeu parce qu'il passait par là. On lui a dit, vous voulez tester ? Je lui ai dit, ok, pas de problème. Il nous a fait une remarque, juste après avoir joué, et ça a changé le jeu en fait. Ça a rendu le jeu extrêmement accessible en fait, par rapport au contrôle. Et du coup, on ne se rend pas compte à quel point c'est bénéfique. Du coup, n'importe qui peut venir en jam, proposer des idées, faire des choses. On peut se découvrir des talents de game design ou même de graphisme simple qui sont vraiment, vraiment appréciés par tout le monde.
Nickel.
Notre voyage dans les cultures du jeu vidéo n'est pas seulement peuplé de développeurs et d'éditeurs. Dans une autre aile des libertés, nous trouvons un grand bloc d'ordinateurs et des joueurs hyper concentrés sur Super Smash Bros. Après avoir regardé un match, je m'arrête pour discuter avec trois e-sporters qui se définissent pro mais casu. Antoine Minoli, Pierre Delecloix et Valentin aka Massad. Je leur demande ce qui veut dire pour eux faire de la compétition.
Sans dire qu'on est des hardcore gamers, on joue à pas mal de trucs, on est assez ouvert sur beaucoup de types de jeux. Là, on va sur Smash parce que c'est un peu le jeu du cœur à mon collègue et à moi, quoi. Mais sinon, oui, on joue à plein d'autres choses.
Disons que lorsque le jeu est sorti, on s'est rendu compte que sur 48 heures où on avait acheté le jeu, on avait déjà débloqué le succès, joué 35 heures.
Alors là, par exemple, là sur Smash, c'était pas du tout de l'équipe, hein, c'était du chacun pour sa peau, la loi de la jungle, le plus fort gagnera, le plus faible mourra. Après, on fait quelques jeux en équipe aussi, par exemple, on joue un peu tous à Overwatch, mais déjà, on fait pas beaucoup de compètes, nous, de base, on est plutôt des casual, on va dire. Il y a que sur Smash où on commence à vite fait à toucher, dans le sens où on peut commencer à prétendre aller faire des compètes pour s'améliorer justement et être des joueurs compétitifs. Moi, je joue un peu à Pokémon de manière compétitive aussi. Mais de base, ouais, on n'est pas une team de potes qui jouent sur tous les jeux compètes qu'on trouve ou quoi. C'est pas du tout le délire. Nous, on est plus des casus quand même.
Je me demande, vous que vous commencez à vous lancer, est-ce que ça a changé votre façon de jouer, le fait de jouer à ça? Je vais dire, est-ce que vous trouvez le même plaisir à faire d'autres types de jeux si vous jouez à d'autres types de jeux qui ne sont pas...
Pour ma part, en tout cas, ça a complètement changé ma vision du jeu. Alors, ça va dépendre des jeux. C'est-à-dire que si c'est un jeu que je viens d'acheter, j'en sais rien, un jeu d'aventure quoi, moi, j'ai joué pour me faire plaisir. Avant tout, de toute façon, c'est le principal dans tous les cas. Moi, maintenant, sur Smash ou sur Pokémon, où j'ai envie un peu de me lancer dans un monde plus compétitif, moi, sur Smash, je viens maintenant pour m'améliorer parce que je veux performer un peu maintenant. Dans le sens où même quand on a commencé à jouer ensemble à la coloc, on avait un niveau de débutant, on s'est amélioré, on a commencé à jouer en ligne jusqu'à atteindre le niveau maximum qu'on peut atteindre en ligne. Donc là maintenant on a cette barrière qui est faut jouer en physique contre des joueurs beaucoup plus forts que nous pour s'améliorer encore. Et moi maintenant quand je joue à Smash, j'y vais pour m'amuser dans tous les cas, mais je vais m'amuser parce que je veux m'améliorer et que je cherche à gagner. Je suis là quand même pour gagner. Aujourd'hui, j'ai perdu. La prochaine fois que je viendrai, j'espère passer la phase de poule, par exemple.
Après, pour le coup, effectivement, même sur Smash, on a des niveaux qui sont différents au sein de notre coloc. Et le fait de jouer avec des personnes qui sont pas, pour un niveau compétitif, on peut jouer aussi pour le plaisir, juste en prenant des personnes n'importe quel perso qu'on n'a pas l'habitude de jouer, ou utiliser les objets qui sont strictement interdits en tournoi. C'est des choses qui peuvent aussi nous faire juste passer du bon temps sur un jeu sur lequel on a aussi de la compétition.
C'était pareil, mais c'est ça la joie de Mars. Autant ça va pas taper toujours très très fort comme ça veut, mais bon, quand le tipeur il arrive à trouver sa cible, il déboîte.
Attends, mais pourquoi les objets sont interdits? Je connais pas trop Smash. Hein.
En fait, c'est pas compliqué. Smash, c'est un jeu qui, de base, ne se veut pas compétitif par Nintendo parce que ça nuit à leur image familiale, etc. Dans les faits, les joueurs de Smash sont des acharnés et quand on leur dit on fera pas de compétition, ils vont dire on va en faire deux fois plus. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va mettre des objets, etc., c'est qu'on va faire rentrer de l'aléatoire. Et l'aléatoire dans un jeu compétitif, c'est pas sain. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est gagner avec nos compétences et pas parce qu'à un moment donné, on a une Master Ball qui est tombée du ciel, on a invoqué un Pokémon légendaire et il a balayé la dernière vie de notre adversaire alors qu'on se faisait défoncer. Ça, c'est pas une victoire, c'est de la chance. Quoi qu'il arrive, que vous soyez compétitif ou casu, jouez surtout pour vous amuser. Si vous prenez plus de plaisir à jouer, arrêtez, ça sert à rien.
Change de jeu s'il y a plus de plaisir.
Pour toutes celles aussi, parce que je reprends juste ce que disais avant, parce que l'histoire, je vois, il y a beaucoup de personnes dans ce tournoi. Et franchement, la présence de n'importe tout le monde, ça peut vraiment être sympa. Donc tous ceux, toutes celles qui voudraient pouvoir se mettre à Smash ou à n'importe quel jeu, c'est franchement très sympa. Genre ma copine, je l'ai mise à d'autres jeux vidéo et c'est un truc qu'elle connaissait pas du tout et au final elle s'y est pris avec énormément de plaisir quoi. Est-ce que les jeux de combat, enfin c'est quelque chose qui touche n'importe qui, que ce soit, enfin ça dépend juste de l'envie qu'on a de jouer, de s'amuser. Ça. Même si tu disais effectivement que là on voit plus de personnes de joueurs masculins, ça peut franchement c'est ouvert à n'importe qui et enfin, c'est vraiment, il y a une ambiance dans la communauté qui doit aussi pouvoir permettre, qui permet tout ça, quoi.
J'aime beaucoup ce que nous apprennent les joueurs de Smash sur cet aspect compétitif. Le fait qu'ils enlèvent les objets pour supprimer le caractère aléatoire. Personnellement, je vois ça comme une réappropriation du jeu par les joueurs pour faire ce qu'ils veulent, ici, de la compétition. Mais au Stunfest, il y a une autre façon de se réapproprier un jeu vidéo, c'est le speedrun. Alors le speedrun, c'est tout simplement une pratique qui consiste à terminer un jeu le plus rapidement possible. On va donc chercher à optimiser ses déplacements, exploiter les bugs du jeu, etc. Je vous l'accorde, comme ça, quand on n'est pas familier du genre, ça peut paraître un peu bizarre, mais franchement, c'est vraiment impressionnant à regarder. Au Stunfest, ça se passait sur le stand Speed Them All, avec qui j'ai pu échanger sur cette culture particulière du jeu vidéo. On a l'impression que le speedrun, c'est quelque chose de pas très accessible. C'est peut-être une impression, peut-être un cliché sur lequel votre association, elle permet aussi un peu de lutter.
C'est une impression qui se comprend parce que bien évidemment, quand on diffuse principalement du très haut niveau, ça paraît très inaccessible. Mais c'est la même chose pour toute pratique et même pour tout sport. On se voit très difficilement atteindre le plus haut niveau d'un sport aujourd'hui. C'est le cas aussi pour le speedrun, alors qu'en fait, c'est excessivement accessible. C'est plus récupérer l'information parce que toute la documentation vis-à-vis du speedrun est en anglais. Après, par contre, le pratiquer en lui-même, là, c'est très simple. Il y a même des runs, on va dire, ou des jeux qui maintenant intègrent un timer au sein même de leur fonctionnement. La porte d'entrée est très, très simple à franchir. Atteindre le plus haut niveau, ça, par contre, oui, ça, c'est très, très, ça devient très, très difficile aujourd'hui.
Tu parlais vite fait de sport. Alors, est-ce que on peut considérer que le speedrun est une pratique e-sportive?
Ça se différencie quand même énormément de l'e-sport pour une raison simple. C'est que le speedrun est avant tout une pratique, on va dire, communautaire où des informations sont glanées par l'entièreté des joueurs et tous les joueurs tentent d'améliorer le temps du jeu en quelque sorte. On n'est pas les uns contre les autres, on est tous ensemble contre le jeu. Si un joueur se mettait à utiliser des informations ou des techniques que les autres ne connaîtraient pas, eh bien il serait pris en défaut en fait de ces techniques du simple fait qu'elles ne seraient pas considérées comme légitimes. Donc en quelque sorte, en gros, sa run serait nulle et non avenue s'il ne serait pas capable de l'expliquer. Ça fonctionne beaucoup à la confiance pour la validation en fait des temps ou des vidéos dans les leaderboards. La principale différence avec l'e-sport, là où l'information ou le joueur contre joueur en fait aurait de la valeur parce qu'elle donnerait un avantage par rapport aux autres joueurs, aucun autre joueur ne peut tirer avantage de ça. C'est avant toute chose tout le monde qui tente d'améliorer son temps sur le jeu en groupe en fait, et même le record du monde en fait à plus forte raison. La première chose que fait un joueur dès qu'il acquiert un savoir ou une technique qu'il arrive à régulariser sur son run, c'est pas de l'utiliser pour faire une run, c'est de la partager aux autres. C'est la première chose qu'il fait à chaque fois. Pour l'instant, il reste cette culture, on va dire, communautaire dans le speedrun, qui, à mon avis, fait partie de sa nature et fait en sorte que ça, si ça devient, on va dire, une pratique compétitive, ça ne sera jamais au sens où est l'e-sport actuellement, en tout cas. Ce sera quelque chose de différent, je pense.
En plus de montrer du speedrun sur scène, l'association a pu proposer une initiation à la pratique sur le jeu The Legend of Zelda, A Link to the Past. Qu'en ont pensé les participants ?
Bah ouais, ça s'est bien passé, de ce que j'ai compris, j'avais probablement le meilleur temps de la journée. De ce que j'ai compris, bon, c'est une stratégie du coup, qui est faite pour être assez simple à faire. Parce qu'en fait, tout ce que ça va être, c'est abuser un peu du jeu et de sa gestion de la hauteur pour pouvoir en fait juste traverser les murs, enfin, traverser un mur et après aller directement jusqu'à la zone des crédits.
3 minutes 55. C'est la première fois et je me suis déjà intéressé avant, mais c'est vraiment ma première fois réelle, quoi. Plusieurs fois déjà que j'avais envie de commencer et j'arrivais pas à trouver le déclic maintenant. Je pense que dans les prochains mois, je vais sûrement tenter une run, tout comme ça.
Et est-ce que du coup, ça change pas un peu ton expérience des jeux au quotidien ? Est-ce que quand tu joues à un jeu, tout simplement, t'es pas toujours en train d'essayer de bidouiller et de chercher ses limites ?
Bah en vrai, si, ça change quand même ma vision de certains jeux, du moins ceux que j'ai un peu appris à speedrun. Parce que tout simplement, on apprend quand même des techniques qui nous permettent de faire d'autres choses. Et des fois, c'est juste ça nous permet de trouver d'autres routes et ça peut être fun. Ou juste des fois, juste pour le style, c'est drôle en fait. C'est un truc que j'aime beaucoup.
Et tu disais que ça s'intéressait, mais t'as jamais trop osé. Et qu'est-ce qui t'attire dans le speedrun ?
Un peu le frisson, je sais pas. Genre, en vrai, je trouve ça incroyable de finir un jeu que je mets d'habitude 10 heures en 30 minutes ou en 1 heure.
Il y a peut-être un côté performance aussi sur le speedrun quand même ?
Alors sur speedrun, totalement, c'est toujours vraiment un côté de performance parce qu'il y a quand même cette idée de au moins battre son meilleur temps, même s'il y a des leaderboards ou autres, et du coup, des fois, d'être juste le meilleur tout court. Mais après, il n'y a pas que ça en vrai dans le monde du speedrun. Il y a certes les runs, on va dire, plus classiques comme Any Person ou autre, mais des fois, il y a des gens qui vont se trouver des catégories un peu pour la blague et qui vont justement essayer de speedrun ce truc très particulier parce que, un, c'est drôle, et deux, parce que ça permet des fois de voir le jeu différemment.
Ouais, donc là tu vois, t'as le stand Arte avec les jeux. C'est des jeux qui sont déjà plus aboutis que la majorité des jeux que tu vas voir ici parce que justement ils sont produits par Arte. Donc.
Poursuivant ma promenade, je tombe sur un stand inattendu pour moi. Bon, pour Alex qui est plus dans les mondes de jeux vidéo que moi, bah c'est pas du tout inattendu. Mais pour moi, voir un stand d'Arte au Stanfest est un peu une surprise. Oui, hein, Arte, les mêmes des documentaires, des films, de Arte Radio. Car Arte, je découvre, hein, et aussi éditeur de jeux vidéo. J'en parle un peu avec Guillaume Laurent, chef des projets numériques.
En fait, à Arte, nous, en fait, on fait de la coproduction de jeux vidéo depuis 10 ans. Donc là, c'était un peu un stand anniversaire, entre guillemets. Donc là, c'est pour ça qu'on retrouve Type Rider. Ça fait 10 ans qu'il existe. Et ça fait 10 ans qu'on l'a suivi, ce jeu, etc. Et qu'on l'a mis, justement, pour le public. Nous, Arte, on est un diffuseur, en fait. On est un média, c'est ce qu'on fait avec les documentaires, les séries. Ce que les gens se souviennent, ils retiennent. Mais on le fait pour les jeux vidéo aussi, et depuis 10 ans. Et en fait, nous, nos jeux, on n'a pas une ligne éditoriale pour nos jeux. C'est les jeux qui nous donnent nos lignes éditoriales. Nous, vu qu'on en fait, on suit les projets indépendants, on les aide, on les accompagne. Et avec Type Rider, oui, il y a toute une dimension où en fait, on va faire un petit peu de vulgarisation, on va parler de typographie, qu'est-ce que c'est la typographie, etc. Et par le jeu, justement, donc par le médium du jeu vidéo. Et c'est ça qui est super intéressant. Et avec les autres jeux du stand, avec How to Say Goodbye, Vectronome, To Hell with the Ugly, ben, c'est un peu la même histoire, à des niveaux différents. Les jeux racontent pas la même chose, ils sont très diversifiés, on sent bien que c'est des choses qui sont pas du tout les mêmes enjeux. Vectronome, c'est un jeu de rythme, alors que To Hell with the Ugly, par exemple, c'est un jeu d'enquête. Donc on sent qu'il y a des choses qui sont très différentes, mais pour autant, en fait, la chose, c'est la même, c'est-à-dire c'est du divertissement, c'est de l'amusement, et c'est aussi jouer avec le médium, raconter une histoire, et comment on le fait. Bah, avec le jeu vidéo, il y a plein de possibilités, en fait. En fait, à Arte, nous, notre première chose, c'est d'être un média, donc c'est de soutenir et d'accompagner des créateurs. En fait, on a une image de média culturel, parce que par définition, quand tu fais du documentaire, t'as forcément cette image-là. Mais en réalité, en fait, notre première volonté, nous, c'est de faire éclore la culture. Et donc, l'accompagnement du jeu vidéo indépendant, c'est exactement ça. Nous, en fait, ce qu'on soutient, c'est des jeux qu'on n'a jamais vus ou des jeux qui essayent d'autres choses, d'une autre manière. Et c'est là que notre soutien, il intervient, en fait. Et c'est pour ça qu'on existe aussi. Parce que, évidemment, on a cette dimension où on va essayer d'apporter la culture, peut-être de l'expliquer, de la vulgariser. Et c'est notre première tâche. Mais notre deuxième tâche aussi, bah, c'est qu'elle existe, la culture. Et donc, par le soutien aux jeux vidéo indépendants, bah, c'est exactement ce qu'on fait.
Et les jeux vidéo indépendants que vous soutenez, c'est des studios déjà formés ou c'est même, je ne sais pas, quelqu'un qui sait coder, qui sait faire des jeux vidéo et qui s'élance, qui a une idée, comment ça marche?
Et ben en fait, c'est un peu tout ça à la fois. C'est un panel en fait de différents créateurs qui viennent nous voir, qui nous proposent leurs idées de jeu. Nous après, on en débat et on retient les idées qui nous plaisent ou avec qui on a envie de travailler. Parce que ça marche comme ça en fait. Des fois, il y a des studios qui ont déjà fait beaucoup de jeux. Des fois, les studios, c'est leur premier jeu ou c'est leur deuxième jeu. Des fois, il y a des gens aussi, ils arrivent avec des idées qui sont pas encore très concrètes et on les aide à faire éclore leurs idées. Et des fois, il y a des gens qui arrivent avec des idées qui sont déjà plus construites, etc. Parce qu'ils ont une expérience aussi. Et donc, en fait, nous, ce qu'on recherche, c'est du soutien. Donc, encore une fois, on va pas regarder les profils, en fait. Nous, ce qu'on va regarder, c'est le jeu, ce qu'il veut dire, comment il veut le dire, et est-ce qu'il a besoin de notre aide, en fait.
Dans la société, il y a un peu cette idée que, ouais, il y a la culture Arte élevée. Après, bon, la culture jeu vidéo, c'est des gens qui aiment bien tirer des fusils contre quelque chose, etc. Et ben, j'aime bien de voir qu'Arte s'engage, de voir que ce soit pas comme ça.
Et ben en fait c'est ça qui est super intéressant et c'est notre rôle de diffuseur à Arte de montrer en fait que le jeu vidéo c'est plus qu'un jeu de foot, c'est plus qu'un jeu de tir à la première personne comme on a l'habitude de le voir dans les médias et ce que les médias critiquent d'ailleurs beaucoup. En fait le jeu vidéo c'est plus que ça, c'est un médium culturel qui a une richesse infinie parce que il mêle différentes manières de créer, c'est-à-dire les arts visuels, la musique, mais en plus avec l'interactivité et c'est ça qui est super riche avec le jeu vidéo. Et donc là on peut raconter plein de choses de plein de manières. Et avec Arte, ben, on essaie justement de montrer ça et de la plus belle des manières en soutenant des projets qui sont inédits, quoi.
J'ai beau être déjà venu au Stunfest, il m'arrive encore d'être surpris par les bizarreries numériques que l'on peut croiser dans les couloirs du festival. Cette année, j'ai découvert Draw Your Game, un jeu qui, comme son nom l'indique, permet de concevoir son propre platformer d'une manière vraiment très poussée.
Le principe du jeu de base, c'est on dessine sur feuille, on prend en photo le dessin et ensuite on joue sur notre niveau qu'on a créé. On peut aussi créer ses assets sur ordinateur, faire, si on est graphiste, faire des dessins sur tablette graphique, les importer dans l'application et mettre en place tout ça. On compte aussi faire une version RPG type Zelda, où en gros on dessinerait les murs, les coffres, les clés, quand on les cherche un peu partout. On peut aussi faire un mode de jeu drive à la Mario Kart où on dessinerait tout son circuit sur les feuilles. Ça serait génial, il y a un potentiel de malade.
On va commencer avec une plateforme là, une espèce de petite colline. Ensuite, donc ça c'est la lave. Enfin, ouais. Je peux faire de la lave.
Tu peux faire de la lave. Ah,
parce qu'en fait, faut vraiment saisir qu'on donne vie au dessin. Ouais. On donne des personnalités aux ennemis. Donc on peut tout créer. Et je me dis, c'est tellement puissant que pour moi, c'est presque plus un jeu, c'est presque un moteur de jeu. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, alors on nous a souvent fait la remarque justement que ça serait plus un moteur de jeu. Et on nous a même suggéré de faire en sorte que ce soit accessible par tout le monde, style Unity, Unreal, tout ça. On le sait, en fait, on le sait que le concept c'est ça, c'est plutôt un éditeur de jeu. C'est pour ça qu'on a mis aussi la partie joueur pour qu'il y ait des joueurs qui s'y retrouvent aussi, pas forcément les créateurs. Enfin, c'est trop cool en fait, c'est surtout de se dire que tout ce qu'on va pouvoir dessiner, on va pouvoir y jouer dessus. Et quand je parle de dessin, ça peut être aussi de la pâte à modeler, quoi. On peut vraiment faire un niveau en pâte à modeler et ça détecte les formes et on peut dire ok, ça c'est un ennemi. Enfin, en fait, il y a des possibilités infinies et c'est ça qui est vachement cool.
Ah bah oui, mais c'est là les expériences. En fait, on est sur le stand des expériences dont je te parlais.
Ok.
Donc les messieurs là sont très très sympas. Et là tu vois, on voit par exemple, il y a le jeu cordialement, où le but du jeu, donc c'est totalement détourné, hein, c'est de taper cordialement le plus vite possible. Et genre t'as un temps limité et tu dois taper cordialement, cordialement, cordialement.
Ah bah je connais des gens que c'est un peu leur vie, hein.
Et oui, le jeu Cordialement était à nouveau au Stunfest, le jeu des bidouilleurs de l'association Playful.net. Ça aussi, c'était le genre d'expérience vidéoludique qu'il ne fallait pas louper.
Sur ce stand, ni Switch, ni manette d'Xbox ou de dispositifs connus des joueurs. Ici, tout n'est que construction bizarre et idées farfelues. Alors forcément, j'ai voulu savoir comment on en vient à faire ce genre de jeu.
Mais ouais, nous on aime bien partir d'un concept, d'un concept de blague et d'un concept relativement simple qui est accessible à tout le monde. Mais par contre, le pousser dans le côté hardcore gamer et hyper compétitif et des choses comme ça, et c'est hyper drôle du coup de voir la réaction des gens à vouloir tryhard un truc qui est débile, comme de devoir taper cordialement le plus rapidement possible. Généralement, ça part vraiment d'un jeu de mots, d'une blague entre nous. Ouais, par exemple, Pony Hawk Pro Skater, c'est pareil, tout tient dans le nom du jeu, quoi. Et il a fallu, après, trouver un gameplay derrière cette blague.
Et un petit mot sur le collectif, quel genre de joueurs on retrouve là-bas ?
Bah, du coup, nous, on est principalement trois personnes dans Playful, et du coup on a chacun des tâches un petit peu différentes en termes de capacité de production, mais après on aime tous les jeux d'arcade et le côté easy to learn, hard to master, donc on s'oriente vraiment vers ce genre de gameplay là. Et puis après on a aussi des choses qui vont être plus des installations pour de l'événementiel, où ça va être sur des plus grosses échelles, des jeux en multi-écran ou des jeux en vidéo-projection sur des façades de bâtiments ou des choses comme ça, et où tout de suite ça prend une autre ampleur.
Une autre chose qui a surpris Guglielmo Ostenfest, c'est de voir des personnes âgées s'affronter sur un jeu vidéo sur la grande scène du Liberté. Silver Geek, c'est une association qui lutte contre la fracture numérique en proposant des ateliers aux seniors. Une des activités que propose l'association, c'est le bowling sur Wii Sport. Et cette année, Austin Fest, c'était la finale du championnat.
Daniel qui tire directement, une boule. Yeah. Yeah. Incroyable. Incroyable, mesdames et messieurs. Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, je fais. Oh non, attendez. Souffle.
Je dois admettre qu'il n'est pas facile d'interviewer les joueurs de Silver Geek. Ils ont traité comme des stars. J'ai tout de même réussi à discuter avec Martine et Jean-Luc, accompagnés par Catherine, l'animatrice de leur centre social L'Audace, à Fontenay-les-Comtes, en Vendée.
Moi, ce qui m'avait vraiment très très grand plaisir, mais là, vous ne pouvez pas savoir comment, c'est de voir les anciens qui sont encore comme ça, présents, qui jouent, et c'est magnifique. J'espérais être comme ça à leur âge.
On est prêts à jouer, à continuer. Oui, des jeux, toutes sortes de jeux.
Les seniors, ils ont encore de la vitalité pour aller faire des compétitions, se rencontrer, et ça les fait bouger, ça amène de la vie dans leur quotidien. Et ça, c'est le plus beau bonheur qu'on peut partager avec eux, quoi.
Ça nous rapproche des jeunes un petit peu.
Et aussi de voir dans la salle des jeunes avec des anciens à différentes générations, je trouve ça magnifique. Si, moi, je dis qu'il n'y a pas de perdants, il n'y a pas de gagnants. On est tous gagnants puisqu'on a passé un après-midi formidable.
On a aussi pu échanger avec Chocobo, l'animateur de l'événement, qui, vous l'entendrez, a un peu perdu sa voix.
Eh bien, à la base, Silver Geek, donc, comme on l'expliquait au début, c'était surtout pour réduire la fracture numérique intergénérationnelle. Et de fil en aiguille, on a fait des ateliers. De fil en aiguille, on a investi dans la recherche. Et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour concrétiser tout ça, pour donner de la visu à tout ça? On s'est dit, pourquoi pas faire un trophée des seniors sur scène. C'est parti de Poitiers à la base. Ça a pris. Et en fait, depuis, je suis avec eux. Et depuis, tous les ans, ça grandit. Et puis maintenant, on en arrive à des scènes comme ça, quoi.
Cette animation à laquelle tu participes, il rend très e-sportif cet événement auquel on pourrait se dire, c'est des seniors. Quelque part, ils y connaissent rien à l'e-sport.
Ouais, ben en fait, c'est pour ça que souvent, quand je fais des scènes, je répète que c'est de l'e-sport. Je répète qu'il y a des coachs, je répète qu'il y a de la mémoire musculaire. Parce qu'on a beau dire, mais nous, on est des vrais gamers, on mange du carte graphique. Donc on connaît, on sait qu'il y a du coaching, il y a de l'analyse coach, il y a du head coach, etc. Nous, on essaye de reproduire ça. Et c'est important. Parce que là, le niveau qu'ils ont, c'est pas, ils ne tirent pas comme ça. Ils se sont entraînés pendant des mois avant. Et là, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de mettre un point d'orgue sur l'e-sport. C'est de l'e-sport. Et c'est pour ça aussi, quand je regarde le public, je dis, mais toi, est-ce que tu es capable de le faire? Et non, ils ne sont pas capables de le faire. même moi je ne suis pas capable de le faire.
C'était la première fois que je venais voir aussi, et c'était incroyable, je ne connaissais pas jusqu'à il y a deux jours, et la chose qui m'a énormément marqué, c'est la différence d'ambiance entre ici et les couloirs à côté, où il y a l'e-sport qu'on considère classique, des jeunes, etc., où c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus concentré, etc., et ici, il y a l'ambiance des fous, c'est incroyable que vous avez généré ça.
Oui, ben, en fait, c'est parce qu'en fait, c'est les seniors, c'est-à-dire que maintenant, il faut se mettre à la place des gens qui ne connaissent pas, comme toi. T'arrives, tu vois des seniors, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois Josiane, 91 ans, taper un strike et que le public s'en folie? Ben en fait, la réponse est dans la question. Parce qu'en fait, c'est des seniors. Et que vous comme moi, quand on voit des seniors jouer, mais on se dit, mais attends, mais qui serait l'aigri qui serait comme ça dans le public, les bras croisés en train de dire non, c'est pas possible. Juste le fait que ça soit des seniors, ça embellit le tout et c'est pour ça qu'on continue avec ça. Et en plus de ça, Silver Geek, l'association se développe dans la recherche et dans les ateliers pour réduire la fracture numérique intergénérationnelle. Et donc il y a tout un accompagnement et c'est pas que pour aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, c'est aujourd'hui, c'est la cerise sur le gâteau. Mais à côté de ça, il y a vraiment tout un travail qui est fait avec nos seniors pour vraiment les familiariser avec le numérique et ça leur permet, mais par exemple, le truc le plus simple, ça leur permet de garder contact avec leurs petits-enfants par exemple. Et utiliser une Wii ou une Switch ou toute autre console, mais ça aide, ça familiarise. On se dit ah ben en fait le numérique ne fait pas si peur que ça. Et donc du coup voilà, c'est tout un amoncellement de choses et ça aujourd'hui c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est pour vraiment leur donner le sourire et qu'ils se disent ah ouais c'est ça le jeu vidéo, c'est ça l'e-sport et c'est incroyable.
Mesdames et messieurs, Marcel et Monique qui vont donc remettre le trophée. Bien sûr
Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission spéciale sur le Stunfest. On remercie les équipes du festival qui l'ont rendu possible et également un grand merci à ceux et celles qui ont accepté de répondre à nos questions. Cette émission ainsi que les précédentes sont disponibles sur toutes vos applications de podcast et sur le site www.c-lab.fr. On vous dit maintenant à la prochaine pour la dernière de la saison.
J'aime bien venir ici parce que le Wi-Fi va super vite. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça qui offrent une connexion fibre avec une vitesse gigabit.